bienvenue. Il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
RFI Matin démarre maintenant 3 heures d'infos tout autour du monde et au-delà à l'occasion du sommet international sur l'espace à Paris. C'est aujourd'hui et demain. Quels enjeux à l'heure du désengagement américain, d'une montée en puissance des acteurs privés? Quel rôle pour l'Europe? On parle aussi de l'Afrique qui veut se tailler une place dans le secteur. D'abord, c'est votre journal. Bonjour Julien Coquelrand.
Bonjour Andréane. À la une de l'actualité, des mesures qualifiées d'antisémites en Israël où les autorités annoncent déjà des représailles. 12 pays dont la France, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé hier vouloir imposer des sanctions sur le commerce avec les colonies illégales en Cisjordanie occupée. Reportage dans l'une d'entre elles dans un instant. À la une également, une nouvelle nuit de frappe entre l'Iran et les États-Unis et le pétrole qui se rapproche des $100 le baril. L'inflation caillou dans la chaussure de Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le président américain tente de galvaniser son électorat avec une convention nationale du Parti républicain aujourd'hui à Dallas. On part aussi au Kenya, la polémique qui continue dans le pays après les menaces de William Ruto contre les petits commerces tenus par des étrangers. Et puis ils fêtent cette année leurs 30 ans et amusent toujours les petits comme les grands, les Tamagotchi, toujours stars au Japon à la fin de cette édition.
Des mesures pour empêcher la situation de se détériorer davantage.
La décision de 12 pays annoncée hier d'imposer des sanctions au commerce avec les colonies illégales en Cisjordanie occupée face à l'accélération de la colonisation israélienne et aux violences accrues contre les habitants palestiniens du territoire. La France, le Canada, le Royaume-Uni et 9 autres pays européens disent vouloir prendre des mesures et soutenir des sanctions à l'échelle européenne malgré l'absence d'accord entre les 27. Paris, Londres et Ottawa annonce déjà qu'ils vont même interdire l'importation de produits en provenance des colonies et appliquer des sanctions ciblées face à ce qu'ils évoquent comme une menace directe pour la solution à deux États. Quelle réaction du côté des colons israéliens déjà installés en Cisjordanie? Reportage dans la colonie de Gush Etzion de notre correspondante Manon Chaplin.
Pour les habitants de la colonie, l'annonce passe mal. Pour tous, le rejet est d'abord sémantique, comme Shalom, qui refuse tout simplement d'admettre l'existence de colonies en Israël.
C'est quoi cette décision? C'est vraiment grave.
Dans une déclaration conjointe, les 12 pays appellent Israël à stopper toute annexion des terres palestiniennes. Dalit refuse, elle, que d'autres pays décident de ce qui se passe ici.
Ce ne sont pas leurs affaires. Cet endroit, nous l'avons acheté. Nous avons donné chaque centime pour cette terre. Alors pourquoi ce serait une colonie? Il y a simplement de l'antisémitisme depuis des années. Nous sommes habitués à cela.
Cette décision fait suite à un phénomène double. L'accélération de la colonisation, symbolisée par le lancement d'un projet qui empêcherait la continuité territoriale en Cisjordanie occupée, ainsi qu'une explosion des violences de colons ces derniers mois. Joël et Déborah refusent d'être tenus responsables de ces groupes.
L'actualité se focalise sur cela et c'est vraiment regrettable, car c'est un groupe minoritaire. Maintenant, c'est sur nous que ça retombe et nous sommes tous rejetés.
Selon l'ONU, plus de 1400 attaques de colons ont été recensées depuis le début de l'année, dont une centaine rien que sur les 3 premières semaines du mois d'août. Manon Chaplin, Gush Etzion, RFI.
Et du côté du gouvernement israélien, la réponse à ces annonces pour l'instant concentrée contre le Royaume-Uni, alors que Londres est allé plus loin hier en évoquant un nettoyage ethnique. Israël annonce la fermeture du consulat britannique à Jérusalem et l'interdiction d'entrer dans le pays pour 12 personnalités britanniques. L'autorité palestinienne a salué pour sa part une étape importante, alors qu'aux États-Unis, le chef de la diplomatie Marco Rubio a exclu hier de se joindre aux sanctions annoncées, tout en dénonçant les tensions en Cisjordanie occupée.
Toujours au Moyen-Orient, Téhéran dit de nouveau vouloir punir l'agresseur.
20 missiles iraniens tirés vers la Jordanie cette nuit. L'Iran et les États-Unis continuent de se livrer à des frappes interposées dans la région du Golfe. Les dernières heures ont à nouveau montré l'extrême tension qui ne cesse de grimper entre les deux pays, Siavash Gazi.
L'escalade se poursuit de plus belle entre l'Iran et les États-Unis après l'attaque confirmée de 5 pétroliers iraniens par les États-Unis. Téhéran a affirmé avoir visé 2 bâtiments de guerre américains dans le golfe Persique, mais également 8 pétroliers ainsi que 10 navires commerciaux dans la région. Donc une escalade très importante entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran a également affirmé avoir visé 2 bases américaines en Jordanie, la base du prince Hassan, mais aussi la base Al-Zahr, où sont stationnés des avions de guerre américains, notamment des F-15, mais aussi des F-35. Donc c'est l'escalade entre entre les deux pays. L'Iran a également affirmé hier avoir saisi un drone sous-marin américain dans le golfe Persique. Donc, pour Téhéran, la tactique a changé puisque désormais, l'Iran réagit avec force aux attaques américaines. On peut s'attendre à une escalade encore plus importante au cours des prochaines semaines entre les deux pays.
Si Avoj Ghazi à Téhéran et la perspective d'une escalade qui fait aussi grimper les prix du pétrole, le baril s'approche ce matin de la barre des 100 dollars qui n'a plus été atteinte depuis le 24 juillet.
L'explosion des prix qui complique les affaires des républicains aux États-Unis.
L'effet boomerang de la guerre contre l'Iran lancée par Donald Trump et qui pourrait coûter à son parti sa majorité au Congrès. À moins de 2 mois des élections de mi-mandat dans le pays, le président américain se lance donc dans une opération communication de grande ampleur pour tenter de galvaniser son électorat, avec notamment le lancement aujourd'hui d'un objet politique non identifié. Les républicains vont tenir à Dallas une convention nationale, alors que les immenses réunions de ce type étaient jusqu'ici réservées aux élections présidentielles, Vincent Sorio.
D'habitude, ces conventions servent à désigner un candidat, valider le programme du parti ou réconcilier les troupes avant de partir en campagne. Mais cette fois-ci, on parle en anglais d'un Trump Palooza, autrement dit d'une grande kermesse centrée sur la personne du président américain. Comme à son habitude, Donald Trump va vanter son bilan, baisse d'impôts, fermeture de la frontière avec le Mexique. Il devrait aussi répéter que la guerre en Iran est gagnée, mais plusieurs analystes y voient une erreur politique. Le président américain continue de tirer la couverture à lui, alors que sa popularité dévisse autour de 33% d'opinion favorable. Il veut nationaliser le scrutin, alors qu'une partie des candidats républicains ont retiré en toute discrétion son nom de leurs affiches électorales. Bon nombre d'entre eux ne feront d'ailleurs pas le déplacement jusqu'à Dallas, en particulier les élus au coude à coude dans les sondages avec un ou une adversaire démocrate. Ce rassemblement a-t-il de quoi inciter la base MAGA à se rendre aux urnes? C'est possible, mais il y a très peu de chances qu'il fasse changer d'avis les électeurs indépendants qui constituent le nerf de la guerre et qui se sont détournés de la Maison-Blanche depuis janvier 2025. Vincent Sourio, Washington RFI.
Et Donald Trump qui ne manquera sans doute pas de vanter à Dallas cette nouvelle étape dans sa guerre commerciale avec le Canada, alors qu'en réponse aux surtaxes imposées fin août par Washington, le Canada a fait entrer en vigueur hier des droits de douane pour riposter au dollar près. Le président américain surenchérit et annonce cette fois l'interdiction d'importer aux États-Unis certains produits canadiens, comme les boissons alcoolisées. D'autres produits, comme les matelas ou les bateaux à moteur, ne sont pas interdits, mais eux, taxés à leur tour à 50%. Réaction du ministre canadien en charge des relations avec Washington. Il évoque des mesures injustifiées et affirme qu'Ottawa va désormais les évaluer.
Au Kenya, c'est une annonce du gouvernement qui continue de faire polémique.
C'était il y a une semaine à Nairobi, la promesse du président William Ruto de faire cesser d'ici 7 semaines les activités des petits commerces tenus par des étrangers. La phrase prononcée devant des commerçants kényans a très vite mis le feu aux poudres, entraînant des violences xénophobes et la panique des premiers concernés. Des milliers de Burundais se sont notamment précipités depuis vers leur ambassade pour tenter d'obtenir des papiers. Et une semaine plus tard, les autorités continuent d'affronter les critiques. Elles ont présenté des excuses et adouci en partie leur position, sans éteindre pour autant la controverse. À Nairobi, correspondance Gaëlle Lalex.
Sur les réseaux sociaux et les télévisions kenyanes, on ne parlait que de ça hier. Les récentes annonces du président Ruto sont vues par l'opposition comme une manœuvre populiste. Ahmed Rashi, candidat aux législatives de 2027 à Langata.
Le président Ruto utilise cet argument pour faire monter le nationalisme dans ce pays, pour mettre le chômage des pauvres sur le dos des étrangers. Il n'a pas créé un seul emploi depuis qu'il a pris le pouvoir.
Odhiambo Ramoji, directeur d'Elim Capital, cabinet d'analyse économique, redoute quant à lui que ces mesures ne fragilisent la position du Kenya au sein de l'EAC, qui est aussi une zone de libre-échange et un marché commun.
Le président a été irresponsable, négligent et égoïste. Il faut rassurer l'EAC sur notre engagement. Les Burundais, Ougandais, Tanzaniens apportent plus au Kenya que l'inverse. Donc on perdra beaucoup si l'on poursuit dans la direction xénophobe que nous impose le président.
De son côté, le gouvernement persiste et signe. Esther Mutoni Passaris, députée de la majorité à Nairobi.
Vous ne pouvez pas venir au Kenya avec un visa de touriste, puis ouvrir un magasin. Il faut avoir votre permis. Hier, à l'ambassade du Burundi, la plupart des gens venaient demander des documents pour voyager. Ils n'ont même pas leurs papiers pour voyager. Et en plus, ils font du commerce sans permis.
Hier, la présidence kenyane a annoncé accorder 90 jours aux ressortissants étrangers engagés dans le commerce pour régulariser leur situation. Gaëlle
Alex, Nairobi, RFI.
RFI 7h10 à Paris, la Tour Eiffel a rouvert ses portes hier aux touristes.
Après la grève décidée lundi par les salariés et l'annonce de deux enquêtes par la mairie de Paris, tout a commencé samedi lorsque le personnel féminin de la Tour Eiffel a été mis à l'écart le temps d'une visite d'un groupe religieux hindou, le BAPS, lié au premier ministre nationaliste indien Narendra Modi. Un mouvement qui venait visiter la Tour Eiffel, certes, mais aussi inaugurer près de Paris l'un des plus grands temples hindous d'Europe qui accueille depuis ce week-end ses premiers fidèles. Reportage Nicolas Feldman.
Avec sa façade en pierre et ses dômes qui s'élèvent dans le ciel, le nouveau temple a de quoi impressionner Menka. C'est par un message du premier ministre indien qu'elle a entendu parler du site.
Nous, on vient de Népal. Moi, ça fait 12 ans que j'habite ici. J'ai pas trouvé plusieurs temples. Ça fait nous plaisir, c'est ça.
À l'étage, des hommes et des femmes offrent des fleurs aux divinités. Impossible pour les journalistes de déambuler seuls. C'est Nipa Patel qui mène la visite dans ce temple appelé ici un mandir. Elle est membre du mouvement BAPS.
Le mandir est entièrement financé par des bienfaiteurs et des sympathisants. Il n'y a pas de financement extérieur.
Le mouvement BAPS se revendique dans le monde plus d'un million de fidèles, des actions sociales et caritatives soutenues par le premier ministre nationaliste indien. Mais l'organisation nie tout lien politique.
Les mandirs ont joué un rôle déterminant pendant des crises humanitaires comme le Covid. On travaille avec des autorités pour fournir une aide quand c'est nécessaire. On soutient simplement la communauté.
La mairie de Bussy-Saint-Georges dit n'avoir constaté aucun prosélytisme au sein de cette communauté, parfois accusée en Inde de proximité avec des suprémacistes anti-musulmans. La preuve, confie cet élu, le temple s'est installé tout juste à côté d'une mosquée.
Nicolas Feldman.
Et puis Julien, c'est un jouet légendaire qui fête cette année ses 30 ans.
Vous en aviez peut-être un dans votre poche lorsque vous étiez petite, Andréane. Vous l'avez peut-être même laissé mourir à votre grand regret. Les célèbres Tamagotchi, c'est une petite...
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
C'est l'attente que les moutons sortent du rang. Ça fait longtemps qu'on attend. Si 47% 100% des gens de mon pays sont dans mon camp. La majorité a trouvé le taf, c'est plus convaincant. Je prends la plume pour dire dans ma nation je sens le danger. Pour l'heure, soyez alerte, les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
Un message universel.
Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer pour mes homeboys, homegirls et autres. Ceux dont les quartiers qui voient leur avenir et leur chance qui se vautent. Pour nos deux couleurs et de banlieue, on lit selon les anges qu'il y a plus de bandits que de gangs, que les types sont dangereux. On parle de crimes que les plus fous commettent, mais les cités se bougent aussi. Y'a plein de bonnes volontés d'assassins, je veux connaître. On s'ouvre aux autres, c'est cosmopolite. Noir et blanc à colis, je métisse, je prêche pour certains, ce soit insolite. Si nos écoles sont délabrées et que les classes sont tièpes, les conditions pour étudier sont comme se tirer une balle dans l'yèpe. Du talent dans nos rangs, artistes, écrivains, sportifs. On passe pour ignorants quand un bouffon devant une caméra se glisse. Faites gaffe, on nous manipule. Le regard des autres sur la jeunesse, banlieusard, et là c'est ridicule. Tout ça pour dire qu'en manas on chante danger. Pour l'heure, soyez alerte, les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
Un message universel.
Les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
The hope of a better day.
Les choses doivent changer ici bas. Je sais, je le dis souvent, je comprends pas qu'étant riche pour d'autres, les salaires soient si bas. Qu'il n'y ait pas plus de ressentiment, peur de la ligne de mire. Peu se dire ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils ressentent vraiment. J'encourage à ce que l'on retrouve tous nos manches. Pire que lorsqu'on vote un dimanche, pour ma part, ça comme fout la frousse. Tu trouves que je suis militante? Je suis juste habitante, présidente en France, dans l'attente, comme nous tous. Pour me faire comprendre, je vais ni brûler une caisse, ni voter pour la haine. Je vous concède et le cri, y'a qui veut l'entendre. Beaucoup n'osent pas voir la réalité. Au fond, je les comprends, ronflant dans nos petites vies, on aime se conforter. J'ai juste envie que l'on renverse la vapeur, que le peuple soit fort, que les valeurs humaines soient moteurs. Je prends la plume pour dire dans ma nation, chante danger. Pour l'heure, soyez alerte, les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
Un message universel.
Les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
I mean, I have a certain sense of security when I'm with sort of my own friends.